Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. Nous entendrons ce soir le dernier cours que John Shedd, titulaire de la chaire Religion, Institutions et Société de la Rome antique, a consacré cette année au Dieu de Rome, au Dieu des Romains et aux réflexions sur les théologies romaines. Cet intitulé pouvait sembler paradoxal, mais le terme de théologie lui a permis de souligner le fait que la religion romaine a beau être ritualiste et civique, que ces dieux ont beau être immanents et jamais transcendants, il y a bien, chez les Romains, une pensée religieuse qui relève de choix conscients qui font sens. Je rappelle que vous pouvez retrouver les cours de John Shedd sur le site de France Culture et l'ensemble de ses travaux et séminaires sur celui du Collège de France. Dans ces derniers cours, il nous a longuement parlé des décalages, parfois légers, parfois plus importants, entre les dieux grecs et leurs correspondants romains. Le culte d'Hercule est lui assez proche de celui du Héraclès des Grecs. Ce dieu serait arrivé à Rome par les routes des transhumances dont il était le protecteur. Si les Romains ont retenu du Héraclès grec ces deux aspects principaux, d'une part la force et de l'autre, ses relations avec les femmes, Hercule était vénéré à Rome comme un dieu à part entière, car les Romains ne faisaient pas de différence entre les demi-dieux et les dieux. Mais tous savaient que Hercule était un mortel divinisé. John Shedd a donc saisi cette occasion pour aborder les questions théologiques liées aux dieux qui naissent et aux dieux qui meurent. Ainsi, en est-il du Genius, qui est le double divin de tout. Il est attaché à tous les humains, à une ville ou à un lieu, à un groupe, à une garnison ou à un dieu. Il naît et meurt avec ce dont il est le Genius. Son nom vient de générer, faire naître. Le Genius peut être immortel s'il est attaché à un dieu, et il vit plus ou moins longtemps s'il est attaché à un homme, à une ville ou à un groupe. C'est également le cas du noumen, qui est l'expression divinisée de la puissance de l'action d'une divinité ou d'un empereur. Dans ce cas, le noumen apparaît et disparaît avec l'empereur auquel il est lié depuis sa prise de pouvoir. Il y a encore d'autres divinités qui meurent. Les nymphes, qui sont des divinités féminines. Contrairement aux Genius et aux Noumen, elles ont une mythologie, sont investies d'un rôle social important et accompagnent souvent d'autres dieux. Elles rient, parlent, bavardent, babillent, murmurent, chantonnent. Les nymphes aquatiques sont intarissables et font couler l'eau fraîche et pure. Mais il y a encore d'autres sortes de nymphes. Écoutez.
Les nymphes ne sont pas seulement liées à l'eau. Elles peuvent également être associées aux arbres. Les amadriades, nymphes des arbres, ont déjà été chantées à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, dans l'hymne homérique à Aphrodite, à propos de la naissance d'Énée, le fils de la déesse. Sitôt qu'elle verra la lumière du soleil, « Ce fils, écrit l'hymne, aura pour nourrice des nymphes montagnardes à l'ample poitrine, celles qui habitent cette grande et divine montagne. Ces déesses, on ne les compte ni parmi les êtres mortels, ni parmi les immortels. Elles vivent longtemps, goûtent à l'aliment divin, donc l'ambroisie, comme les immortels, et dansent gracieusement en chœur avec les immortels. » D'après ce texte, donc, les nymphes sont des déesses, comme les autres, mais elles occupent une position intermédiaire entre les mortels et les immortels, puisqu'elles participent des deux conditions. Elles boivent l'ambroisie, dansent avec les immortels et vivent indéfiniment. Dans la suite, nous apprenons qu'elles sont aussi mortelles. Le poème continue, ou l'hymne continue, en évoquant les bois sacrés des immortels qui grandissent. Puis nous lisons « Jamais les mortels ne les abattent avec le fer, puisqu'ils sont propriétés d'une divinité. Mais quand arrive l'heure fatale de la mort, on les voit d'abord sécher sur le sol, ces beaux arbres, l'écorce dépérit tout autour du tronc et les branches tombent. Alors en même temps, l'âme des nymphes abandonne la lumière du soleil. » Donc elle meurt. 4 siècles plus tard, le poète Callimaque décrit le même phénomène ainsi dans son hymne à Délos. Ébranlée, du coup, la nymphe locale, Méliée, quitta le cœur de ses compagnes et la pâleur envahit ses joues. Quand elle vit trembler les arbres, chevelure de l'hélicon, angoissée par le chêne dont les jours sont les siens. Muse, ô mes déesses, dites-le-moi, est-ce véridique que les chênes soient nés au même jour que leurs nymphes ? Ah, vous voyez, c'est exactement cela. Il est dit très clairement dans ce texte que la vie de la nymphe Méliée est liée à son arbre, mais aussi qu'elle est différente de celui-ci, qu'elle n'est pas l'arbre comme on l'a cru très longtemps. Elle est angoissée par le chêne dont les jours sont les siens. Il ne faut pas considérer qu'il s'agit là de vieilles idées limitées à la Grèce. Cette conception fut en fin de compte celle de tout le monde antique. On la retrouve, par exemple, telle qu'elle dans l'œuvre du commentateur de l'Énéide de Virgile, Servius, un collègue qui connaissait toute cette tradition au 5e siècle de notre ère, qui fournit lui aussi une énumération des différents types de nymphes. À propos d'un autre passage dans lequel Énée évoque le sang en train de couler d'une branche cassée, Servius répète le fait que les nymphes naissent et meurent avec les arbres. Lisons encore le mythe d'Érysicton que Servius mentionne dans ce passage, tel qu'il est raconté plus longuement par Ovide dans les Métamorphoses. Érysicton, fils du roi de Thessalie, avait abattu un arbre appartenant à Cérès, la déesse de la croissance des fruits des champs. Je cite, « On dit qu'il avait profané un bois de Cérès, Kéréal et Némus, une hache à la main, et porté le fer sur son antique bois sacré. Là s'élevait un chêne immense, au tronc séculaire, entouré de bandelettes, de tablettes commémoratives et de guirlandes, témoignage de vœux satisfaits. Il ordonne à ses serviteurs de couper au pied ce chêne sacré. Sacrum robur. Devant l'hésitation des serviteurs, le fils du roi saisit lui-même la hache et crie « Quand il serait cher à la déesse elle-même, il va toucher la terre de sa cime verdoyante. Il dit, et son arme balancée assène à l'arbre des coups obliques, aussitôt le chêne de Deo tressaille, etc. Deioia quercus, le chêne consacré à Deo, c'est-à-dire à Cérès, Déméter. Une fois qu'il est à terre, une voix s'élève du chêne. Je suis, sous ce bois qui me cache, une nymphe très chère à Cérès. Et cette voix prédit au jeune homme une mort affreuse. La suite nous apprend en effet que Cérès le punit effectivement en le frappant d'une faim si inextinguible qu'après avoir mangé tout ce qu'il pouvait trouver, il finit par se manger lui-même. Mais ce n'est pas cela qui nous intéresse ici. Vous aurez noté dans ce texte qu'un arbre peut être sacré, sacrum robur, chêne sacré. Cela signifie-t-il pour autant que ce chêne est un dieu, que cet arbre est un dieu ? Non, le chêne se trouve dans un bois sacré appartenant à la déesse Cérès. Il est magnifique et il est utilisé comme support pour les ex-voto. Lorsque dans les vers 752 et suivants, Ovid le qualifie de chêne sacré, cela signifie littéralement en latin chêne appartenant à une divinité, en l'occurrence à Cérès, nous le savons. La déesse le possède, comme Zeus possède le fameux chêne oraculaire de Dodone, Apollon le laurier, Athéna l'olivier. En s'y attaquant, Érysicton a fait violence au bois sacré de Cérès, et notamment à l'un de ses arbres. Il commet, ce faisant, au sens propre, un sacrilège, c'est-à-dire une atteinte à un objet sacré. Un peu plus loin, Ovid, vous l'avez vu aussi, qualifie l'arbre de chêne de Cérès, Deioia Quercus, ce qui confirme le sens qu'il a donné auparavant de Sacrum Robur. Ça vous montre que c'est exactement la même chose dont il s'agit. Que faire du discours de la nymphe cachée sous le bois du chêne ? L'arbre est identifié à une nymphe au même titre que peut l'être une source, mais cette nymphe n'est apparemment pas vénérée dans le texte d'Ovide. C'est Cérès qui est la propriétaire du chêne, c'est elle qui se venge et frappe le sacrilège. Et la pauvre nymphe, elle meurt. Dans le poème, un arbre s'anime, mais Ovide ne se contente pas de faire parler l'arbre, comme le font nos contes et légendes, ou le Seigneur des Anneaux, où vous avez une belle image d'Amadriade, un bel exemple. Il anime l'arbre d'une façon qui concorde avec la vision que le monde antique avait de la divinité. Il considère que l'arbre n'est pas seulement géré, qui peut même être habité par Cérès, sa propriétaire, mais qu'il l'est aussi par une nymphe. Une fois de plus, nous constatons que le lien qui unit Cérès et la nymphe n'est pas une simple figure poétique, comme on pourrait le croire chez Callimaque ou chez Ovide. Une dépendance du même type est aussi attestée sur le plan du culte quotidien à Rome, dans un quartier situé au nord de la ville, au Parioli, Piazza Euclide, que nous avons visité, si vous vous rappelez, il y a une dizaine d'années. Dans les parages se trouvait le bois sacré de la déesse Anna Perenna, une divinité liée au changement et au cours des années. Des fouilles récentes ont permis de dégager une fontaine, un nymphée, qui était dédiée, d'après les inscriptions, aux nymphes consacrées de Anna Perenna, Nymphis Sacratis Annae Perennae. La source appartient à la déesse, mais des nymphes, qui appartiennent également à la déesse, habitent aussi cette source. Ce n'est pas du tout une donnée isolée. On retrouve la même dépendance dans une dédicace de Sabine, qui mentionne les nymphes de Diane du Bon Retour, Lymphis Dianae Reducis. Lymphae en latin, vous rappelez, je vous ai dit, c'est un vieux terme latin pour Nymphae. On a aussi, pour aller à l'autre extrême, à Stockstadt, en Germanie supérieure, une inscription qui honore les nymphes d'Apollon, les nymphes apollinaires, ou celle de Léon, en Espagne tarraconaise, qui concerne une inscription qui concerne plus modestement les nymphes d'un fons, d'une source, dont le nom est peut-être Amoinus, la fontaine agréable, mais c'est mutilé. En tout cas, c'est aux nymphes de la fontaine une telle. Et puis, l'inscription est difficilement lisible. Je citerai en dernier lieu une plaque de plomb qui relève de ce qu'on appelle généralement les tablettes de défiction et qui a été découverte à Arezzo, en Italie, dans la fontaine de Poggio Bagnoli. Elle témoigne de ce que les règles théologiques que nous avons observées dans les documents officiels, qui sont évidemment les plus nombreux, valent également dans les documents privés et jusque dans les textes magiques. Ce document porte sur les deux faces le texte suivant. Quintus Letinius, ces textes sont très, très intéressants pour les linguistes puisqu'ils nous donnent l'état phonétique de la langue à un moment donné, puisque ça vient en général d'un milieu culturel moyen. Ce n'est pas forcément des gens les plus brillants qui ont écrit cela. Quintus Letinius Lupus, qui est également appelé Caucadius, qui est le fils de Sallustia Veneriosa, moi je le confie, le voue et le sacrifie à votre pouvoir, pour que vous, eau bouillante, ou vous nymphe, ou quel que soit le nom par lequel vous désirez appeler, être appelé, le fassiez périr, le tuiez d'ici un an. Vous noterez dans ce texte, qui respire l'amour du prochain, les rites sont tous précédés du préfixe « de », « de woweo », « de mando », »,« de woweo », »,« de sacrifico », qui signifie ce préfixe « de » en mauvaise part, vers le bas, ce qui a pour résultat d'inverser la portée du rite. Au lieu de provoquer des effets heureux pour l'intéressé, ces rites votifs, en quelque sorte, l'envoient à sa perte. Et comme dans la fontaine d'Anna Perenna, l'auteur anonyme de cette dévotion, au sens étymologique, jette la tablette dans cette fontaine, dans ces bains de Poggio Bagnoli, pour confier la victime aux nymphes qui communiquent avec les dieux d'en bas. Ce qui est également important dans ce texte, c'est la manière dont l'auteur s'adresse aux divinités de la fontaine, soit dit en passant, eau bouillante ou bien nymphe, ou quel que soit le nom par lequel vous désirez être appelé. C'est là une formule que l'on trouve dans les textes les plus officiels, et cela dès l'époque républicaine, ce qui, comme je l'ai dit, démontre une fois de plus que les conduites rituelles et la pensée théologique ancestrale sont partout identiques, qu'il s'agisse des grandes messes de la République célébrées par les consuls avec les pontifes et les flamines, ou la modeste défiction d'un rival ou d'un traître. Pour revenir à notre sujet, nous pouvons donc considérer qu'il existe parmi les dieux romains une catégorie qui n'est immortelle que tant que l'être ou la chose auquel ou à laquelle elle est attachée, est en vie. Ces divinités, les textes poétiques le prouvent, qu'ils réfléchissent un peu sur tout cela, ils nous donnent donc d'autres éléments que les gestes cultuels taisent, parce que ça va de soi. Eh bien, ces divinités sont considérées comme inférieures aux dieux auxquels elles peuvent être liées, ce qui n'est pas sans rappeler la hiérarchie qui existe au sein d'un rite ou d'un lieu de culte entre les dieux qui assistent le ou la destinataire du rite ou bien le ou la propriétaire du lieu de culte. Je rappellerai ici, encore une fois, les relations qui unissent Dea Dia dans son bois sacré et dans les rites expiatoires que nous avons examinés aux autres divinités qui lui sont adjointes, soit comme invitées d'honneur, soit comme aide. On a vu que les dieux serviteurs, les vierges divines et surtout l'éphémère et très joli, devant brûler, débiter, faire descendre, était inférieur en dignité à Dea Dia. Comme eux, les nymphes, par exemple, peuvent disparaître dès que leur activité cesse. Le génie des dieux se trouve dans la même situation de dépendance par rapport à sa divinité. La Juno de Dea Dia est une suivante et non l'équivalente de Dea Dia. Cependant, chacune de ces divinités en service peut bénéficier d'un culte propre, car elles sont pleinement divines le temps que dure leur service et leur existence. C'est par rapport aux humains que la position du Genius et de la Juno sont intéressants. Ils sont d'un côté un aspect secondaire de la personnalité de l'homme ou de la femme auquel ils sont attachés, puisqu'ils représentent les capacités d'action divinisées de l'être humain ou d'une institution. Mais en même temps, en tant que divinité, ils possèdent une qualité que l'humain ne possède pas. Ils le protègent donc, ils sont vénérés, mais ils ne jouissent pas de la même puissance qu'une divinité entièrement éternelle, pour ainsi dire. Comme Heinrich Hermann Usener, encore lui, qui avait déjà noté en partie tout ceci, l'a souligné, l'un des ressorts du culte impérial s'inspire de cette procédure théologique. Il ne s'agit pas seulement du génie de l'empereur qui devient l'objet par décision publique d'un culte qui s'étendra des banquets familiaux aux sacrifices publics. Nous avons étudié ces pratiques il y a quelques années et je ne reviens pas sur ce sujet. Je tiens juste à rappeler que la pratique a dépassé la mise en commun du culte du genius de l'empereur vivant. Usener a qualifié dans son livre le foisonnement des qualités impériales qui étaient élevées au rang de divinité en remarquant que, je cite, « jusqu'à l'époque de sa décrépitude et de sa disparition, la religion romaine a conservé la capacité de créer de nouveaux concepts divins pour caractériser l'instant, den Augenblick, c'est ces fameux dieux de l'instant très primitifs. Et voyez, c'est ça qui est extraordinaire, qu'en 1890, quelqu'un dise « Attention, à l'époque impériale, on est bien avant la fin et la décrépitude de la religion romaine, qu'il devait fixer quelque part au 5e siècle, 4e, 5e siècle, regardez ce qui se passe, et notamment dans ce qui était le plus décrié comme culte politique, le culte impérial, on a les vieux ressorts théologiques qui sont toujours productifs. Et ça vous montre l'originalité de ce livre qui, de ce point de vue, a été complètement ignoré. À l'époque, on ne comprenait pas, je crois, ce qu'il avait entrevu. Il cite, pour prouver cela, toute une série de qualités ou d'actes divinisés. Regardons-les un instant d'un peu plus près en essayant de demeurer dans un contexte précis. Là, nous sommes dans le culte. Commençons par Auguste et par la manière dont on a honoré les projections divines de son action à Rome. Regardons quelles sont les divinités nouvelles qui furent créées tout à fait officiellement sous son principat. En 29 avant Jésus-Christ, il installe Ia Victoria. La première de ces abstractions, puisque vous voyez, c'est des termes relatifs à ce qu'on appelle des abstractions divinisées, la première est la victoire qui salue les triomphes d'Auguste. Nous sommes en 29 au moment du triple triomphe. Cette statue célèbre, dressée au Sénat, sera encore l'enjeu d'une grande bataille politique entre Symmaque et l'évêque de Milan, Ambroise, au 4e siècle de notre ère. Ce n'est pas la Victoria Augusti, même si tous y pensaient. C'est simplement la victoire qu'a apportée l'action d'Auguste. Mais on ne dit pas davantage. Deux décennies plus tôt, on avait créé les Ludi Victoriae Caesaris, les Jeux de la victoire de César, dont une victoire définie comme étant celle de César. Et vous voyez la différence. Personne ne l'ignorait en 29 avant Jésus-Christ. La création du temple suivant, celui de Jupiter au Capitole, empruntait une voie plus traditionnelle. Donc pas d'Auguste encore en 29 avant Jésus-Christ, dans le nom de la déesse. Mais pour Jupiter Tonans, c'est autre chose déjà. Même si ça reste extrêmement discret. Comme Auguste était sorti indemne d'un orage qui avait foudroyé l'un des porteurs de la litière dans laquelle il se trouvait, il honorait le foudroyant, le tonnant Jupiter, qui avait jeté la foudre sans vouloir l'atteindre. L'épiclèse du dieu renvoie donc à une anecdote qui a marqué la vie d'Auguste. C'est Jupiter, en tant qu'il avait été l'auteur de ce geste, un soir en Espagne. Ensuite commencent à apparaître les divinités abstraites qui illustrent le bonheur d'action ou l'efficacité de l'empereur. Fortuna redux, c'est la chance de son retour, en chance politique, puisqu'il y avait des troubles à Rome, de son retour en 19 avant Jésus-Christ. Comme pour toutes les autres divinités que je nomme, ce ne sont pas des sortes d'allégories qui auraient orné un arc de triomphe éphémère, comme lors des joyeuses entrées à partir du XVIe siècle, des empereurs ou rois. Mais ce sont des divinités qui, à partir du moment où elles avaient été créées par une décision du Sénat, recevaient un autel, un temple et un calendrier rituel. Ainsi, le jour de la fondation de l'autel de la fortune du retour, le 12 octobre, était appelé Feriae, c'est-à-dire jour de grande fête, avec des sacrifices accomplis par les magistrats, les prêtres et les vierges vestales. Pour ce qui nous intéresse, le 12 octobre fut appelé comme, donc cette fête en l'honneur de Fortuna Redux, fut appelé, comme Auguste la rappelle dans ses hauts faits, les res gestae, ex cognomine nostro, à partir de notre surnom, c'est-à-dire Augustalia. C'est le nom qu'on leur donnera. Même si la décision ne prit complètement effet qu'après la disparition d'Auguste, elle révèle une démarche intéressante. Le jour devait prendre le nom de fête d'Auguste, Augustalia, mais le sacrifice était, dans un premier temps, adressé à Fortuna Redux. À partir de 14 après Jésus-Christ, quand la fête reçut des jeux réguliers chaque année, le nom du divin Auguste fut ajouté au premier destinataire de la fête, Fortuna Redux, qui traduisait déjà un événement de sa vie. De la même manière, en 13 avant Jésus-Christ, lorsqu'après la conclusion des guerres et des affaires d'Espagne, de Gaule et de Germanie, Auguste revint à Rome, le Sénat et le peuple commémorèrent l'événement par la dédicace de l'autel de la Pax Augusta, la paix auguste, dont l'anniversaire de la fondation et celui de la dédicace, qui a eu lieu 3 ans plus tard, étaient désormais célébrés par des sacrifices accomplis par les magistrats, les prêtres et les vierges vestales. Suit la dédicace d'une série d'autels à Concorde, Salus Publica et Pax, en 11 avant Jésus-Christ. C'est vraisemblablement Auguste qui les a dédiés, mais la raison précise de ces dédicaces nous intéresse. D'après Dion Cassius, le Sénat et le peuple rassemblèrent alors de l'argent pour élever des statues à Auguste. Cet hommage était lié à la soumission des Dalmatiens et des Pannoniens, ainsi qu'à la défaite des Besses et autres peuples qui s'étaient révoltés en Macédoine. Auguste refusa ces statues, il le fait régulièrement, mais utilisa l'argent pour faire des statues de Salus Publica, Concorde et Pax. Cette analyse théologique de sa personnalité est passionnante pour notre propos. Auguste décomposa donc ses propres mérites en 3 figures divines qui exprimeraient son action dans toutes ses affaires. La concorde désormais avec Tibère, le salut préservé du peuple romain et la paix qu'il avait ramenée. Le salut et la paix qui sont le produit de cette action et de cette concorde notamment. La volonté d'Auguste est claire, pas d'honneur excessif pour l'homme Auguste, mais plutôt un hommage à ses vertus divinisées, aux divinités exprimant le principe de son action. Les sous-entendus politiques ne nous intéressent pas ici, ils sont évidents. Ce qui nous intéresse, c'est la mise en œuvre systématique de cette décomposition des modes d'action d'Auguste, la concorde et ses effets, Salus et Pax, c'est ça qui nous importe. Au lieu de dresser une statue ou des statues à Auguste, hop virtutem, hop victoriam, etc., ce qui pour nous suffirait, on recourt au biais que j'ai décrit. Et cela continue. Le 26 juin 4 avant Jésus-Christ, Auguste adopte Tibère, finalement. L'événement fut inscrit sur les calendriers. Le sacrifice anniversaire inscrit sur le protocole Arval de l'année 38 après Jésus-Christ m'a permis de le comprendre. On fonda en cette même année, le même jour, l'autel, donc le 26 juin, l'autel de Providentia Augusta, Providence Auguste, pratiquement en face de l'autel de la paix sur le Corso actuel de Rome. L'endroit où se trouve l'autel de la paix Auguste aujourd'hui est déporté de 300 mètres par rapport à son lieu de découverte sous San Carlo à peu près. Donc sur le champ de Mars, des deux côtés de la voie, on avait donc ces autels de la paix Auguste et de la Providence Auguste. Cette nouvelle déesse est donc l'incarnation théologique de l'action accomplie par Auguste qui prévoyait, ainsi prenait soin de sa succession pour l'avenir par cette adoption. En 7 après Jésus-Christ, nous avançons, en 7 après Jésus-Christ, Auguste consacra ex voto, donc en acquittement d'un vœu, un autel à Cérès et un autre à Ops. Augusta. Nous savons qu'Auguste avait fait un vœu concernant les Mégalésia, la fête de la grande mère Cybèle, qui tombe entre le 4 et le 10 avril. La raison en était qu'une femme avait pratiqué quelques divinations et que le peuple était inquiet à cause des guerres en cours en Macédoine et en Dalmatie et en raison d'une famine qui s'était déclarée. Il est vraisemblable que les autels sont le résultat de ce vœu. La formulation théologique est à nouveau intéressante. Grâce à la vénérable Cérès, se réalise l'abondance auguste. L'action du prince s'incarne dans la collaboration des deux divinités et se traduit par un effet heureux qui porte de manière significative l'épiclèse Augusta, voulue par Auguste ou reliée à Auguste. Et en même temps, Auguste est aussi un titre typique qu'on donne depuis longtemps aux divinités. Donc c'est toujours cette ambiguïté, ce jeu avec l'ambiguïté. En 9 après Jésus-Christ, nous avançons, un autel de la puissance divine d'Auguste, le Numen Augusti ou le Numen Augustum dans certaines inscriptions, fut dédié par Tibère. On s'accorde depuis Mommsen à restituer Numen Augusti, mais il demeure une incertitude. Cette fois-ci, c'est le pouvoir d'action tout entier d'Auguste qui est pris en compte, et non seulement le morcellement de toutes ses actions. Le jour choisi est d'ailleurs celui du jour anniversaire de son mariage avec Livie. Là aussi, on fait en permanence des ponts entre sa vie privée et publique et ses divinités. Comme dans le cas des Arvales, on constate qu'à côté du morcellement de l'action auquel il procède fréquemment, les Romains étaient pareillement capables de fermer l'éventail en quelque sorte et de concevoir l'acte comme un tout. Donc la puissance divine d'Auguste. D'ailleurs, après sa mort, le même Tibère dédie le même jour, le 17 janvier, un autel au divin Auguste. On aurait tendance à y voir la preuve que le Numen Augusti se confond en quelque sorte du vivant du prince avec le divin Auguste d'après sa mort, et qu'il s'agit de la même chose formulée différemment. La deuxième divinité à laquelle les prêtres doivent sacrifier est elle aussi intéressante. Il s'agit de Felicitas, le bonheur d'action. Elle traduit l'initiative heureuse de Tibère faisant cela, comme nous l'explique l'inscription des fastes de Préneste. Le jeu passe au successeur, à Tibère. S'il n'y a pas un oubli dans l'inscription, il faut souligner que Felicitas n'est pas encore Augusta, parce que Tibère, à l'époque, n'est pas encore prince. En 10 après Jésus-Christ, Tibère consacre le temple restauré de Concordia Augusta le 16 janvier, le jour même auquel l'empereur César a été appelé Augustus, Auguste, en 27 avant Jésus-Christ. Concorde, je n'ai pas besoin de commenter, et la statue de la Justitia Augusti, la justice Auguste, élevée en 13 après Jésus-Christ, le 8 janvier, se réfère, comme Ovide paraît le rappeler, à l'une des vertus canoniques d'Auguste qui vient tempérer sa force, sa virtus. Justitia figurait sur le célèbre bouclier de la vaillance d'Auguste que lui accorda le Sénat en 27 avant Jésus-Christ. Nous ne savons malheureusement pas si les autres qualités mentionnées sur le Clipeus Virtutis ont été elles aussi honorées par des autels et des sacrifices réguliers sous Auguste. Nous savons en revanche qu'elles deviendront rapidement des thèmes monétaires et épigraphiques courants. Et tout ce que j'ai dit sur le culte, je pourrais le répéter pendant toute l'époque impériale sur les revers monétaires des empereurs. Ce n'est pas simplement de la propagande, c'est aussi une pensée théologique du pouvoir. Voilà donc comment Auguste et ses contemporains font représenter son pouvoir d'action, en décomposant et en célébrant les multiples aspects qui le composent. En autant de divinités spécialisées du même type que celles que nous avons déjà étudiées, on constate une évolution. Tant qu'Auguste ne disposait pas de la totalité du pouvoir, les calendriers enregistraient simplement les jours où il avait réalisé un haut fait particulier, ainsi qu'on l'avait déjà fait sous César. Par exemple, le 7 janvier, ces documents commémorent le fait que ce jour-là, il a pris pour la première fois les faisceaux de l'Imperium, du pouvoir de commandement suprême en 43 avant Jésus-Christ. Ou alors, il rappelle que le 11 janvier 29 avant Jésus-Christ, il a fermé le Janus, cet arc-temple, que nous ne connaissons pas très bien, pour signifier que toutes les guerres sont terminées, et ainsi de suite. Dans un deuxième temps, on passe aux divinités dites abstraites, qui expriment les multiples aspects de cette action, avant de trouver une représentation plus globale de cette action vers 9 après Jésus-Christ, avec le Numen Augusti, ou Augustum, comme on veut, pour en venir à fin du compte, après sa mort et son apothéose, au divin Auguste. Et ce processus continuera pendant tout l'Empire. En lui-même, il n'était pas scandaleux. On n'inventait pas purement et simplement des divinités nouvelles. La plupart de ces notions divines existaient déjà auparavant, mais elles étaient attribuées aux dieux eux-mêmes, au peuple romain, à la ville de Rome, au Sénat, en d'autres termes, à la collectivité politique. La nouveauté consistait donc à associer ces divinités fonctionnelles à l'action d'un simple mortel, en quelque sorte, même s'il était le prince, donc de l'associer à cet homme qui gouvernait Rome, et même à lui attribuer un principe d'action supérieur, le noumen, la puissance divine. C'est par ce biais que la personne d'Auguste l'emportait sur tous et que devait se développer une nouvelle forme de culte, celui de l'empereur. Ajoutons que ces divinités, exprimant les vertus de l'action impériale, je l'ai déjà dit, ont fourni de nombreux thèmes pour les frappes monétaires. J'ai placé le traitement des vertus impériales dans la partie concernant les divinités éphémères. Je l'ai fait en raison du genius, du noumen et des qualités impériales qui ont certes traversé l'histoire de l'Empire, mais qui, en fait, étaient requalifiées, recréées en quelque sorte, à chaque fois qu'un nouvel empereur prenait les rênes du pouvoir. Toutes ces divinités étaient attachées à sa personne précise, et par là, elles se constituaient en même temps qu'il devenait, ce personnage devenait empereur, et elles se dissolvaient éventuellement dans sa nouvelle personnalité divine, divus, après sa mort. Venons-en, pour terminer, à un autre aspect de la théologie publique d'époque historique, l'apothéose. Nous en sommes déjà très près, là. Lors des funérailles d'Auguste et de la cérémonie de sa divinisation, rapporte l'historien Tacite au début de ses annales, dans le célèbre passage qui juge positivement et négativement l'œuvre d'Auguste, certains Romains formulèrent une critique qui avait un contenu religieux. Il n'avait rien laissé aux dieux en fait d'honneur, lui qui voulait être, comme eux, adoré par des temples, par des images et avoir des flamines et des prêtres. J'ai expliqué il y a quelques années que ce passage devait être interprété avec prudence, car il ne donne, d'après Tacite lui-même, qu'un aspect de l'opinion des Romains. Au lieu de faire une synthèse neutre, l'historien juxtapose les deux opinions contraires, un peu comme les journaux télévisés d'aujourd'hui se contentent de diffuser deux prises de position contradictoires concernant un problème donné, ce qui leur évite de prendre eux-mêmes position. Ceci était évidemment plus dangereux à l'époque de Tacite que de nos jours, et l'historien pouvait donc par ce biais distiller quelques remarques bien senties à l'égard du régime impérial en général, à supposer toutefois qu'il ait réellement voulu changer de république, ce qui n'est pas sûr du tout. La phrase, en tout cas, en question, met-elle donc en cause, un siècle après sa création, hein, Tacite écrit cela au début du IIe siècle après Jésus-Christ, donc met-elle en cause à ce moment-là, après la création de l'Empire, le culte impérial, cette nouvelle théologie créée au cours des guerres civiles et définitivement consacrée en 14 après Jésus-Christ à la mort d'Auguste. Remarquons d'abord qu'une telle interprétation de l'affirmation de Tacite serait exagérée, car il n'a jamais été question sous le principat d'Auguste d'honneur divin décerné au prince. Non que les Romains, ou du moins les partisans d'Auguste, n'aient pas songé à lui conférer ce type d'honneur. Ils le firent dès la fin des guerres civiles. Mieux même, le jeune Octavien inquiéta fortement Cicéron en 44 avant Jésus-Christ quand il revendiqua les mêmes honneurs que son père assassiné, ce qui signifiait pour Cicéron qu'il désirait maintenant également recevoir des hommages divins comme ceux que César avait reçus avant sa mort. Mais comme je l'ai rappelé dans le cours que j'ai consacré au culte des empereurs, ces excès furent rapidement oubliés par Octavien et l'ardeur de ses partisans fut modérée. Le principe qu'il retint fut soit d'opposer un refus pur et simple à certains honneurs, même s'ils avaient été décrétés par loi ou par senatus consulte, soit d'autoriser uniquement à Rome et dans le culte public romain un culte rendu à son génie ou à des divinités qui incarnaient en quelque sorte son action quasi divine. Nous venons d'en parler. Que signifie donc cette remarque que Tacite met dans la bouche des détracteurs d'Auguste? Je pense que la réponse est relativement simple. Les commentateurs sont en principe au courant de ce qui va se passer, puisque le prince est mort. Tibère détient déjà légalement le pouvoir. Le testament d'Auguste et les 3 ou 4 rouleaux qui exposent l'ordonnancement des funérailles, les hauts faits accomplis par Auguste, les res gestae, et un résumé de la situation de l'Empire viennent d'être ouverts et lus au Sénat. Les commentaires religieux portent donc sur les dispositions que contenaient ces documents. Et les sénatus consultes prient après les funérailles, et non sur la période du principat d'Auguste. Après tout ce qu'ils ont pu dire de ses activités publiques passées, et après avoir dénigré sa vie domestique et sa famille proche, les Romains hostiles au prince défunt ajoutent, dans le même registre de la Pietas, une dernière critique sur son rapport aux dieux. Et une lecture attentive du texte, replacée dans son contexte, nous fait comprendre que les détracteurs d'Auguste critiquent en fait la décision qui avait été prise de lui attribuer un temple, des prêtres et un culte. Et Tacite conclut ce chapitre par la formule lapidaire. D'ailleurs, la cérémonie traditionnelle des funérailles terminée, on décrète, pour le prince mort, un temple et un culte. La messe était dite. Il est inutile de revenir sur tout cela, sinon pour constater que le véritable culte impérial concerne le culte des 10 oui, dont le nombre augmenta de façon d'ailleurs modérée sur le plan de la res publica du peuple romain et qui, sur le plan local, fut fonction des inclinations particulières des cités de l'Empire. Pour le reste, chaque région et cité de l'Empire honorait le pouvoir du prince régnant d'après ses coutumes ancestrales, en gros, dans l'Occident, par le culte du génie, du noumen et des vertus impériales, en Orient, par des honneurs équivalents à ceux qu'on offrait aux dieux, surtout du vivant du prince. Et suivant l'époque, à Rome même, il y eut des fluctuations à l'intérieur des rites publics concernant l'empereur. La seule chose que je trouve intéressante et que j'ai également signalée il y a quelques années, c'est que les 10 oui et les 10 wae constituaient une sorte de famille de divinisés, une domus divina, et que le prince et sa famille faisaient en quelque sorte partie de cette famille dont les ancêtres directs étaient immortels. Et si j'ai raison dans mon analyse de la hiérarchie des sacrifices tels qu'ils se déroulaient devant le tétrastyle des frères Arval, c'est le genius de l'empereur régnant qui joue le rôle de père de famille dans la maison impériale, dans la maison divine, comme disent les Romains, des Tibères. Cette position originale aura forcément au cours de l'histoire de l'Empire des conséquences pour l'empereur et sa famille, comme on peut le voir par exemple dans l'utilisation courante de l'épithète « sacré » pour désigner tout ce qui touchait cette famille. Sacré au sens romain, bien entendu, pas au sens de Rudolf Otto et des christianismes. Les lettres sacrées, les inscriptions sacrées, les administrations sacrées étaient celles qui appartenaient à celui qui faisait partie de cette famille particulière qui comprenait des dieux, même si lui-même ne l'était pas encore. J'ai également évoqué plus haut le fait que les empereurs étaient consacrés après leurs funérailles. Le scénario est pour l'essentiel en place dès la mort d'Auguste. Le Sénat prenait un senatus consulte préalable qui approuvait les rites funéraires programmés et prescrivait d'autres honneurs funéraires pour le défunt. Après la période du deuil et les funérailles, un deuxième senatus consulte, je dis deux, mais il y a pu y en avoir plusieurs, formalisait le culte, éventuellement en instaurant la constitution d'un groupe de prêtres affectés au nouveau divus et un flamin, par exemple, une sodalité et un flamin, et aussi la construction d'un temple. Quant aux doubles funérailles dont nous avons également parlé il y a quelques années, les témoignages explicites actuellement disponibles prouvent que les empereurs défunts dans une province furent les seuls à faire l'objet de cette cérémonie pour des raisons évidentes. Plus exactement, les funérailles et la consecratio de l'empereur s'adaptaient au contexte, car il n'existait aucun cérémonial fixe et immuable, à l'exception de trois éléments. 1. Le ou les senatus consultes émis lors du décès du prince et qui instituaient le deuil public, définissaient le cérémonial funéraire et les autres honneurs dont bénéficierait le défunt lors des funérailles et autorisait par la suite l'attribution du titre de divus, c'est-à-dire l'apothéose. En deuxième lieu, il y avait le deuil et les funérailles. Et puis après cette parenthèse rituelle, il y avait d'autres senatus consultes qui instituaient le culte et prenaient les autres décisions relatives à celui-ci, tandis que le prince vivant fondait officiellement le culte du nouveau divus. L'emploi du terme « consacré »,« consecrare » implique, comme Wilhelm Kirdorf l'a fait remarquer déjà il y a un certain temps, donc ces trois termes impliquent l'activité ou bien d'un magistrat qui possède l'impérium ou de l'empereur qui a aussi cet impérium. En quoi cet acte pouvait-il consister ? Que les funérailles elles-mêmes et les décisions sur le culte aient été appelées de façon globale « consecratio » est tout à fait possible. C'est ce qu'on peut, par exemple, déduire des revers de monnaie représentant le bûcher impérial et comportant la légende « consecratio » ou bien ce protocole des Arvales datant du 23 décembre 119 et parlant d'encens envoyé par les Arvales pour la consecratio de Matidi, la seule belle-mère divinisée par son beau-fils. Mais le terme lui-même reste difficile à comprendre. Appliqué à un humain, il est connu au sens de remettre un individu à une divinité pour qu'elle en dispose comme elle veut, en le punissant ou en le tuant. Mais le terme est nouveau en ce qui concerne l'élévation parmi les immortels. Quelque chose nous échappe dans cet élément de langage. On peut imaginer que l'empereur défunt était rituellement remis au dieu immortel pour qu'il l'élève au ciel, ainsi qu'ils l'ont par exemple fait pour Hercule, ou comme il s'apprête d'ailleurs à le faire au décès de l'empereur Claude dans la métamorphose en citrouille du divin Claude attribuée à Sénèque, et que je vous invite à lire, c'est très drôle. Donc il y a un débat au ciel, justement, Claude est en train d'être enterré et il se présente au ciel, il dit maintenant je veux être admis dans l'Olympe, et alors les dieux discutent et se moquent de lui, etc. Vous pouvez, c'est un violent pamphlet politique évidemment, mais très très intéressant pour ce qui est du culte impérial. Donc, un tel scénario que les dieux élèvent quelqu'un au ciel serait en accord avec la pratique de la consecratio, mais nous ne disposons d'aucun indice susceptible de corroborer cette interprétation. Il faudrait revoir les textes, en tout cas, moi je n'en ai pas trouvé. En aucun cas, toutefois, consecratio ne pouvait être appliqué à une cérémonie de funérailles. Car s'il existe un point de référence ferme et assuré dans toute cette cérémonie, ce sont les conceptions et règles religieuse en vigueur à Rome. Or, les funérailles sont toujours conçues à Rome comme le contraire de ce monde-ci, et surtout du monde d'en haut. Les temples des dieux sont fermés lors de la fête des morts ou lors du deuil public, et les images des empereurs divinisés eux-mêmes ne peuvent pas participer aux processions funéraires, même de leurs fils. Une fois devenu dit oui, le monde des morts leur est interdit. D'autre part, les calendriers prouvent qu'on célèbre l'anniversaire de la divinisation d'un prince défunt, mais qu'il n'existe aucune commémoration religieuse de l'anniversaire de sa mort. Il n'est plus mort quand il est divinisé. On pourra donc considérer que le divus ne pouvait en aucune manière être mis en rapport avec la mort. Donc il fallait attendre pour tout cela. Au contraire, les princes défunts, les jeunes princes défunts, les Césars, comme on dit, mais non divinisés, comme les deux fils d'Auguste ou Germanicus, peuvent bénéficier de parentationes, d'offrandes funéraires, le jour anniversaire de leur mort. Là, c'est possible, mais ils n'ont pas été divinisés, justement. Tous les témoignages qui décrivent les funérailles et les divinisations d'empereurs attestent que l'incinération était accompagnée d'un deuil public et qu'elle se plaçait dans le contexte d'un deuil. Or, comment imaginer, après ce qu'on vient de dire, qu'une consécratio et une apothéose aient pu avoir lieu en plein milieu des funérailles? La conception chrétienne de la mort autorise une telle confusion. Et c'est normal, puisque c'est conforme. Mais dans la religion romaine ancestrale, elle était exclue. La consécration proprement dite avait forcément lieu après la fin officielle des funérailles et du deuil. Ça, c'est le seul élément que je crois certain. Les empereurs, il y a un deuxième point, n'étaient pas les seuls à qui le terme s'appliquait. Nous le trouvons déjà, par exemple, chez Cicéron. Parlant de l'élévation au ciel de certains hommes éminents, Cicéron mentionne parmi d'autres Liber et rappelle la création de la triade de l'Aventin dont nous avons parlé. Et il utilise le terme consecrare pour décrire la constitution de la triade. Liberum cum querere et libera consecraverunt. Et il utilise donc ce terme. Dans le traité des lois, il emploie ce même terme dans le contexte de la divinisation des vertus. Mens pietas virtus fides consecrantur humana. Et donc, les qualités humaines, raison, piété, vaillance, bonne foi, sont divinisées en quelque sorte. Et il emploie le terme consecrare encore. Dans le traité des lois, nous l'avons vu. Ajoutons que bien plus tard, dans un passage de l'Apologétique, dans lequel il évoque le prétendu débat au Sénat sur les événements qui s'étaient passés à Noël 5 après Jésus-Christ, mettons, en Syrie-Palestine, et qui prouverait la divinité de Jésus-Christ, Tertullien, père de l'Église, écrit « Pour remonter à l'origine des lois de ce genre, il existait un vieux décret qui défendait qu'un dieu fût consacré par un impérator s'il n'avait été agréé par le Sénat. » Et vous avez encore une fois le terme « Ne qui deus ab imperatore consecraretur nisi a senatu probatus ». Le même terme, « consecrari », être consacré Dieu. Et comme toujours, pour une consecratio, c'est un impérator qui seul peut le faire, donc quelqu'un qui possède l'imperium, après consultation et approbation du Sénat.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France. Avec ce soir, John Shedd, titulaire de la chaire consacrée à la religion, aux institutions et à la société de la Rome antique. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain avec le professeur John Shedd qui nous a accordé un entretien. Nous retrouvons tout de suite les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous.